Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, tous les plaisirs. Et pour nous de vous retrouver encore ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Pollution des cours d'eau, des zones urbaines de la RDC, quelles sont les conséquences? Eh bien on en parle avec notre premier invité, le professeur Jean-Pierre Ndibou. Il est chercheur sur les questions de l'environnement, risques et naturels. Il est déjà en ligne, professeur Jean-Pierre Ndibou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder ces sujets sur la pollution des cours d'eau des zones urbaines de la RDC. Vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas, composez les 081-890-63-94 ou encore les 099-716-63-94. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse service@radiokapi.net. Et merci à tous ceux et à toutes celles, j'allais dire, qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service. Jean-Noël Mokonde est à la mise en nom de Tatima Poukou, réalise et coordonne ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Marcel Ngombo est à la présentation sous la supervision de Jean-Marc Matoué, qui, à toutes et à tous, excellente condition d'écoute.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Presque toutes les rivières et cours d'eau des zones urbaines de la RDC sont exposées à la pollution, profitant du dérèglement généralisé des services de l'urbanisme. Presque toutes les berges de cours d'eau sont aujourd'hui occupées par des constructions anarchiques, Et quant aux lits de rivières, on y retrouve par des déchets en plastique, de boues des vidanges, de carcasses d'animaux et autres ordures en provenance des ménages. Alors, quelles sont les conséquences de la pollution des cours d'eau des zones urbaines de la RDC? Je le disais, on en parle avec notre premier invité, le professeur Jean-Pierre Ndibou, chercheur sur les questions de l'environnement, risque et naturel. Et je rappelle le numéro des contacts. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Composez les 099-716-63-94 ou encore les 081-890-63-94. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire à l'adresse service@radiokapi.net. Et bien évidemment, il y a également la page Facebook Okapi Service. Nous avons déjà beaucoup de réactions par rapport à ces sujets. Alors, professeur Jean-Pierre Ndibou, vous êtes chercheur sur les questions de l'environnement, risques naturels, et avant de parler de tout ce qu'il y a comme pollution de cours d'eau, des zones urbaines de la RDC, dites-nous, professeur, qu'est-ce qui explique d'abord cette pollution des cours d'eau, des zones urbaines de la RDC?
Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Alors, je voudrais d'abord, avant que j'explique la notion de pollution, c'est qui provoque le facteur le plus important et de pollution dans un milieu urbain en rapport avec des rivières. Essayez de clarifier cette notion des rivières dans une ville. Hein, qu'est-ce que c'est une ville dans une rivière? Hein, et qu'est-ce que c'est? Quelles sont les fonctions d'une rivière dans une ville? Et alors, à partir de là, ça devient plus facile de comprendre la suite.
C'est bon.
Alors, je voudrais quand même vous faire comprendre que lorsqu'on part d'une rivière dans une ville, on voit pratiquement un cours d'eau au débit moyen à modéré, hein, supérieur à 2 mètres cubes par seconde, hein, généralement, et qui doit recevoir des affluents et qui se jette dans une autre rivière ou dans un fleuve. Alors, l'objectif, c'est que quand on est dans une ville où on a la présence d'une rivière qui sillonne, qui serpente la ville, il y a une fonction esthétique, certainement, et une rivière, c'est une zone humide, donc il y a une fonction écologique et il y a une fonction économique. Alors, les trois fonctions sont liées. Alors, si nous sommes dans un milieu urbain comme de grandes villes comme Lubumbashi, comme Kinshasa, comme Kisangani, et la présence généralement d'une rivière joue un rôle important dans la dépollution. Donc nous parlons de pollution, mais ça joue également un rôle important dans la dépollution. Parce que le fait qu'il y ait collecte, une des fonctions importantes c'est écologique, c'est de pouvoir collecter les déchets urbains. Et une rivière qui va, étant une zone humide, finit par collecter les eaux du microbassin versant de l'ensemble de la ville et va pouvoir conduire tous les éléments, que ce soit des pollutions domestiques, urbaines, industrielles ou agricoles, et la nature elle-même jouant déjà un rôle de dépollution. Mais là, je parle de pollution de manière naturelle, sans oublier, sans faire allusion à l'excès, parce qu'il y a le seuil de tolérance. Et une rivière, à un certain moment, ne pourra plus continuer à pouvoir dépolluer les éléments provenant des milieux urbains. Alors, revenons à la question que vous dites, c'est vrai que nous avons la plupart de nos rivières dans nos milieux urbains sont pratiquement aujourd'hui des lieux de lotissement. Alors, les pollutions peuvent provenir des pollutions domestiques des habitants, les pollutions peuvent provenir pratiquement des industriels, ça peut être des industries agricoles, ça peut être de l'agriculture qui n'est pas mécanisée, évidemment, et ça peut être également des industries minières. Et généralement, on a tendance de pouvoir accuser les industries minières en oubliant que nous-mêmes, en tant que population, nous polluons suffisamment ces genres de rivières. Imaginez que vous avez 8 millions d'habitants dans une ville comme la ville de Lubumbashi, 6 millions à 8 millions, et 12 millions à Kinshasa ou 13 ou 14 millions. Alors, imaginez que chacun puisse produire 5 à 6 kilos de déchets. Quel genre de pollution faisons-nous? Et parce que tout cela est conduit avec des eaux de ruissellement en suivant les pentes, en suivant le bassin versant, et conduit pratiquement vers les rivières. Et les rivières deviennent incapables de pouvoir, il y a un problème d'ensablement, et les lits majeurs est en train d'être ensablés, les lits moyens, et peut-être on a juste un lit mineur, et les lits mineurs est en train de disparaître, et finalement, on fait les lotissements, et voilà. Donc nous avons des conséquences des inondations par après, et aussi d'autres types de maladies qui sont des maladies hydriques.
Voilà, professeur, merci de cet exposé, il faudrait le dire, magistral, par rapport à tout ce qui est lié comme fonction écologique pour ce qui est de cours d'eau, notamment dans les zones urbaines. Mais alors, qu'est-ce qui devait être fait en principe pour éviter cette pollution du cours d'eau, notamment dans les zones urbaines?
La première chose, il faut considérer le rivière comme faisant partie d'un système. Hein, la ville, hein, la ville, c'est un écosystème, et dans cet écosystème, il y a plusieurs éléments. Donc, dans ce paysage, nous avons plusieurs écosystèmes. Nous avons les écosystèmes aquatiques, nous avons les écosystèmes forestiers, nous avons... Une ville doit être constituée de ce réseau. Alors, première chose, c'est d'abord de considérer que la rivière fait partie de notre vie. Et alors, si elle fait partie de notre vie, le fait que elle doit dépolluer, elle doit collecter les déchets, elle doit nécessairement nous donner du poisson, la nourriture, c'est une zone humide, elle doit nous donner l'évaporation et l'évapotranspiration, elle doit nous donner des nuages pour avoir des précipitations, ce que nous appelons les précipitations orographiques qui se forment pratiquement dans la zone en question. Alors imaginez-vous, je vais prendre un cas très simple pour vous dire, prenez la ville de Lubumbashi, et c'est hier que nous avons eu de premières précipitations, le plus important pour la ville de Lubumbashi, le 15 novembre. C'est extraordinaire. Donc nous sommes dans une période exceptionnelle, tout simplement. Et tout autour de la ville, vous avez déjà des précipitations. Le pluie ont commencé depuis un bout de temps. Mais la ville ne pouvait pas en avoir par le fait, simple fait que déjà les conditions physico-chimiques de masse d'air dans la ville de Lubumbashi ne permettent pas de former de nuages. Et si les nuages sont formés, les nuages sont dissipés et vont aller produire des précipitations ailleurs. Tout simplement parce que la ville est devenue un endroit où les conditions naturelles ne permettent plus. Les rivières ne peuvent pas vous donner suffisamment d'évapotranspiration parce que l'ensemble des rivières sont en train d'être lotis. Et certaines sont pratiquement actuellement secs, il faut attendre, et sèches plutôt, il faut attendre maintenant qu'il y ait des précipitations, que vous ayez des cours d'eau. Alors, première chose que je dirais, c'est ça. D'abord, reconnaître que ça fait partie d'un écosystème et nous sommes obligés de vivre ensemble avec ça. Deuxième chose, c'est que il faudrait qu'il y ait une certaine éducation, j'insiste toujours sur ça, ces civismes écologiques qui manquent. On a tendance de croire que ce sont les dons de Dieu, et nous, nous avons le devoir de tout détruire, et après, nous subissons. Et quand on subit, également, on pense que c'est Dieu. Alors, et pourtant, ça n'a rien à voir avec Dieu, nous devons être conséquents de ce que nous sommes en train de faire. Alors, troisièmement, si on passe par ces civismes écologiques, la sensibilisation, troisièmement, j'ai toujours dit que nous n'avons jamais eu un code de l'eau. On n'a pas encore eu le temps de pouvoir constituer la vraie cartographie des rivières ici en RDC. Et surtout les rivières urbaines, complètement. On a la tradition, une cartographie coloniale qui vous montre que telle rivière existe en réalité, que la rivière a déjà disparu, n'existe plus. Et quatrièmement, il faut que la loi suive. La loi signifie de sanctions. On ne peut pas lotir dans, sur un versant, on ne peut pas lotir sur un lit d'une rivière. Ce sont de fatalité et nous devrions être conséquents. Je crois que les quatre éléments sont les éléments essentiels pour la protection, ne fût-ce que le minimum de protection des non-rivières.
Alors, par rapport aux conséquences, professeur, vous avez déjà évoqué par les inondations, compte tenu de la pollution des cours d'eau, notamment dans les zones urbaines. Alors, quelles sont les autres conséquences à redouter?
C'est vrai qu'on a les inondations, nous avons des problèmes de maladies hydriques. Hein, vous avez plus les rivières sont polluées, et plus ça produit, donc les micro-organismes se développent, vont s'adapter, et les micro-organismes vont également se muter. Il y a des mutations génétiques parce que les organismes des rivières et aquatiques auront besoin de pouvoir s'adapter aux conditions, aux nouvelles conditions. Et en s'adaptant, il y a des mutations génétiques, et ces mutations génétiques ont aussi d'autres types de conséquences et sur le plan de santé. Donc la chaîne alimentaire également. Nous avons des problèmes. S'ils sont des rivières qui sont suffisamment polluées, nous n'avons plus de poissons. Nous n'avons plus tout ce que nous pouvons rencontrer sur la nourriture que les rivières peuvent nous donner. Ça peut être végétal ou animal. Et simplement parce que les organismes ont subi un traumatisme et finissent par disparaître ou également à mourir ou tout simplement à continuer leur route jusque du côté fleuve ou ailleurs. Donc nous avons, ça c'est au niveau pratiquement de santé et au niveau économique, et nous avons également des conséquences liées parce que la plupart de cours d'eau qui sillonnent la ville, la plupart sont beaucoup plus proches aussi des nappes aquifères. Donc ça peut également polluer les nappes aquifères et ça, les pollutions qui sont dans des eaux que les gens vont utiliser, ceux qui utilisent l'eau des rivières, tout comme ceux qui vont utiliser l'eau de la résidaison, mais qui est polluée par le fait que la nappe a été polluée par les eaux des rivières qui sont polluées, et ça devient également un problème de santé publique. Donc nous avons vraiment des conséquences sur le plan environnemental, et sur le plan de santé publique et sur le plan économique.
Voilà, professeur Jean-Pierre Ndjibou, je reviens à vous. Nous avons déjà de réactions sur notre page Facebook au Capi Service. Il y a déjà beaucoup, en tout cas, d'internautes qui ont réagi par rapport à ces sujets. Et avant également de retrouver les intervenants qui sont déjà en ligne, professeur, je m'en vais lire rapidement. Par exemple, cette réaction de Fabien Kambi qui nous écrit depuis Kindu. Il nous écrit ceci. La pollution des cours d'eau, c'est un problème que nous également, la population de la ville des Kindu, nous connaissons. Nous avons par exemple la rivière Makopo et Kaponjo qui sont pollués par des déchets plastiques de carcasses des animaux et autres ordures en provenance des ménages. Alors certaines personnes qui n'ont pas de WC font également leurs besoins dans les cours d'eau. Alors je vous affirme qu'à certains endroits, cette saleté empêche l'eau de ruisseler. Les cours d'eau sont devenus de véritables dépotoirs d'immondices. Alors j'ai une seule question à poser à notre invité. Comment lutter efficacement contre la pollution des cours d'eau dans nos milieux? Vous l'avez déjà évoqué, on pourra revenir sur ça. Et cette réaction également que je vais lire sur la page Facebook, c'est José, analyste indépendant qui nous écrit depuis Chicapa. La pollution des rivières urbaines est à la base de beaucoup de maux dans nos milieux. Cela est dit par le non-respect de règles environnementales. L'exemple est concret dans la ville de Chicapa où j'ai vu nos deux rivières ont été polluées par les usines angolaises. Les dégâts environnementaux étaient énormes, notamment la mort des aquatiques, la difficulté de l'accès à l'eau, des maladies hydriques à ceux qui avaient utilisé cette eau. Hormis cela, les déchets jetés par la population, la construction anarchique est aussi à la base de la pollution des rivières, ce qui provoque beaucoup de maladies. Là, c'est vraiment des internautes qui ont réagi sur la page Facebook au Capi Service, donc qui rejoignent un peu ce que vous avez dit par rapport aux conséquences de tout ce qu'il y a comme pollution de cours d'eau. Voilà, on va ouvrir le standard puisqu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Jonas qui nous appelle du Kadanga et Malonga qui abandonne nos villes. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, vous êtes intéressé par ces sujets sur la pollution des cours d'eau des zones urbaines de la RDC, n'hésitez pas, on parle des conséquences. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6394 ou encore 099-716-6394.
Radio Kapi, le souffle du Congo.
Jonas, vous nous appelez de Kananga. Bonjour Jonas.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour au professeur, l'invité, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent.
On vous écoute Jonas.
Oui, merci Monsieur Marcel. Il y a certains villages en RDC, je pense, pour ne pas exagérer, en RDC, de manière générale, et ici au Kasaï central en particulier, il y a des villages qui se servent de roues de ruissellement, des cours d'eau, comme eau potable. Et ils s'en servent également pour les travaux ménagers et j'en passe. Mais autrefois, j'étais encore gosse, j'avais participé à une activité au village. J'ai vu une pêche collective et mixte même. Les hommes, les femmes, ils sont allés à la pêche. Mais avant d'y aller, ils ont épluché les écorces des différents arbres. Il y en a qui pilaient, il y en a qui battaient ça sur les pierres pour obtenir une poudre. Et ils vont mélanger la poudre des écorces des différents arbres et ils vont jeter ça dans l'eau. Et donc, cette poudre-là est toxique. Ils vont jeter ça dans l'eau. Après un temps, vous vous rendrez compte que l'eau va changer de couleur. Pratiquement, ça prend une couleur verte. Et après, dès que les poissons ont inhalé cette eau-là, ils vont émerger. Ils vont sortir à la surface, au-dessus de l'eau. Et ils vont commencer à les attraper facilement. Mais c'est la question que je pose à l'invité. Après combien de temps faut-il pour que ceux-là qui boivent cette eau puissent encore en consommer? Parce qu'elle est déjà, je dirais, toxique. Elle est déjà polluée. Après combien de temps faut-il attendre pour s'en servir comme eau potable? Et de deux, pendant que cette poudre toxique-là est encore dans l'eau, par exemple, ceux qui sont en aval, du côté où va la rivière, mais alors que la poudre n'est pas encore arrivée à ce niveau-là, est-ce qu'ils peuvent encore boire cette eau? C'est la petite question que j'avais à l'invité. Merci et bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Jonas. Merci d'avoir appelé du Kananga. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour, ma soeur, mon ami. Et bonjour à notre invité. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ici, chez nous, c'est depuis 5 heures. Hein. Nous sommes sous la pluie. Bon. En tout cas, Marcel, je félicite d'abord par des explications vraiment qualifiées de notre invité. Après la pollution de la rivière Kassai, vraiment, nous devons prendre vraiment sérieux ces problèmes de pollution des eaux. Parce que nous savons très bien à faire. C'est la majorité des activités de l'homme qui est à l'origine directe ou indirecte d'émission des polluants. C'est ce que l'invité vient de dire. C'est-à-dire la pollution des eaux provient principalement des activités de l'homme. Selon ce que l'invité vient de nous distinguer, la pollution se fait par l'activité domestique, industrielle, agricole. C'est l'homme qui est responsable de tout ça. Le manque qui est là dans cette politique, les autorités n'ont pas une politique de bien canaliser les eaux ménagères de la ville. Parce que la population s'habitue déjà de jeter tous les déchets, tout ce qu'ils font dans la rivière. Quelle que soit la grandeur de la rivière, on voit seulement que c'est dans la rivière où on doit jeter tous les déchets. Alors, dans d'autres sièges, les eaux ménagères sont canalisées, sont traitées avant d'être déversées encore dans la rivière. Mais ici, chez nous, directement, même s'il y a une pluie, c'est la pluie qui vient encore arroser toutes les saletés de la ville, puisque les saletés ne sont pas bien canalisées, et ça déverse dans l'eau. Et c'est ce qui cause vraiment la pollution vraiment générale des eaux dans toutes les villes et dans tous les villages de la République démocratique du Congo. Donc, selon moi, je vois ceci, en tout cas, Marcel, si on veut vraiment protéger nos eaux dans le village, parce qu'on ne peut pas construire un village loin des rivières ou bien loin des ruisseaux. Alors, ces ruisseaux-là, c'est ce qui constitue aussi la protection de ces habitats qui sont là. Et si ces eaux sont polluées, en tout cas, les personnes ou bien les habitants qui sont là-bas sont vraiment exposés. Et c'est l'État qui doit vraiment s'en charger à protéger cette population. D'où il faut initier une politique de bien canaliser et de bien traiter les eaux ménagères. Si cette politique n'existe pas, Marcel, en tout cas je ne sais pas, peut-être que l'invité va nous expliquer d'autres, mais les eaux seront toujours polluées. Or, nous sommes bien vraiment avertis par la pollution de la rivière Kassai qui a infecté la rivière confluent de la rivière Kassai Tikapa, infectée. Kassai, heureusement, nous avons des cours d'eau qui sont vraiment puissantes. Sinon, on devrait vivre vraiment une catastrophe de perte de vie en vie humaine. Alors, il faut une politique, j'insiste encore, Marcel, vous allez m'excuser, il faut une politique pour traiter et conserver les eaux ménagères. Et faire sortir à la population que dans l'eau, ce n'est pas une poubelle, mais il faut protéger l'eau. On ne jette pas les saletés dans les rivières. Mais il faut créer une poubelle pour la conservation de toutes les saletés. Et s'il y a un service pour la protection ou bien la récupération de toutes les saletés qui se font dans la ville, alors ça, on peut vaincre ce système de polluants.
Merci Malonga d'avoir appelé du Bandundouville. Benjamin, vous êtes à Kananga. Bonjour Benjamin.
Et bonjour Monsieur Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Benjamin.
Merci beaucoup Monsieur Marcel pour m'avoir passé la parole. Je voudrais d'entrée des jeux que les phénomènes de la pollution des eaux dans les zones urbaines aujourd'hui en RDC devient un véritable casse-tête et ça devient un phénomène courant, messieurs les journalistes. Mais si j'ai posé une simple question, qui est à la base de l'exposition des eaux dans les zones urbaines. Vous allez remarquer avec moi cette question que c'est l'homme lui-même qui est à la base. Maintenant, quand il fait son acte là, et par après, il va se plaindre pour dire que non, l'eau que j'ai consommée était polluée, et maintenant j'ai attrapé telle ou telle autre maladie et le gouvernement a intervenu. Moi, je me dis, nous les Congolais, nous sommes en train de raisonner comment? Et là, je me rappelle d'un écrivain qui a dit, l'homme peut changer sa vie en changeant d'abord son mode de pensée. Ça veut dire quoi? Si peut-être nos pensées ne sont pas bonnes, nos pensées tournent autour de nos genoux, vraiment, on ne peut pas évoluer, mais c'est des journalistes. Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui habitent, par exemple, le long des rivières, ou soit les gens qui habitent le long des caniveaux, vous allez voir que chaque matin, ou chaque soir, quand ils balayent leur maison ou les parcelles, ils vont jeter les immondices, les poubelles dans les caniveaux. Maintenant, les caniveaux sont bouchés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a pluie, tellement que l'eau vient avec une forte pression, l'eau va pousser les immondices, toutes les choses, les plastiques et toutes les choses qui sont dans les caniveaux là seront dirigées vers les eaux. Et demain après demain, l'eau devient polluée. Et même nous, les humains, nous, les habitants, quand nous le faisons là, ont tendance à dire non, l'eau qui coule n'a pas de microbes. L'eau qui coule n'a pas de microbes. C'est ça ce qui continue à tuer les gens aujourd'hui à travers toute la RDC, messieurs les journalistes. Moi, je pense qu'à ce niveau, le ministère de l'Environnement devrait jouer son rôle. J'ai entendu au début de l'émission les professeurs dire qu'il faut battre une campagne de sensibilisation. Oui, il faut commencer par sensibilisation pour que la personne prenne d'abord connaissance, pour que la personne sache que ce que je suis en train de faire va à l'encontre d'abord des lois du pays. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui peut coûter ma vie demain après-demain. Vous avez suivi dernièrement avec la pollution de la rivière Kassai. Et vous savez combien de gens peut-être ont attrapé des maladies et combien sont morts. Ce sont des problèmes. Mais c'est parce qu'on avait versé des matières là toxiques dans le rivière et ça causait vraiment une dégradation. Moi, je pense que la sensibilisation serait la bienvenue pour nous, la population, pour que nous prenions d'abord connaissance. Comme ça, on peut prendre des précautions. Et si jamais le ministère de l'Environnement ne s'implique pas, messieurs les journalistes, le débat sur les ondes comme ça, on va continuer à les faire. Dans la pratique, rien ne va s'y passer. Maintenant, la question que je voulais poser à l'invité, c'est que vous voyez, dans nos villages aujourd'hui, la plupart des gens ne consomment pas l'eau potable parce que c'est un problème ici au Congo. Maintenant, ils consomment beaucoup plus l'eau des rivières, tellement qu'ils se disent que l'eau qui coule n'a pas de microbes. Vous trouverez certaines personnes au village là, il est là à bord d'une rivière, il va peut-être il va uriner dans la rivière, ou ça va prendre le matière fécale et va jeter là-bas. Avec comme conception des choses, l'eau qui coule n'a pas de microbes. Est-ce que bien que cette eau-là coule, mais quand il y a déjà des matières comme ça qui sont versées dans cette eau-là, si jamais on la consommait, est-ce que ça peut présenter le risque à la personne? Voilà la question que j'ai voulu soumettre à l'invité. Merci.
Merci Benjamin d'avoir appelé du Kananga. Je reviens à notre invité, le professeur Jean-Pierre Ndjibou, chercheur sur les questions de l'environnement et risques naturels. Alors professeur, vous avez suivi à tour les intervenants et tous ils sont unanimes sur le fait que la pollution c'est un problème réel, que ce soit dans nos villages et également dans les villes. Et puis tous reconnaissent l'homme lui-même est impliqué au sein de nos communautés. Nous sommes d'abord le premier responsable de cette pollution. Il y a ceux qui ont estimé que l'État doit également jouer son rôle. Et vous avez dit, il faut en tout cas parler du civisme écologique, sensibiliser la population. Alors, pour ce comment réagissez-vous excusez-moi, comment réagissez-vous par rapport à toutes ces interventions?
Tous les trois ont posé des questions ou des préoccupations beaucoup plus importantes. Hein. Donc, que ce soit M. Jonas ou jusqu'à M. Malonga et tout ça, tous les trois. Et je crois que M. Malonga a soulevé un problème sur l'éducation environnementale, c'est-à-dire la responsabilisation du peuple que nous sommes, de la population en question. Je vois également l'intervenant avant M. Malonga qui s'est beaucoup basé sur les politiques environnementales, donc que l'État prenne des résolutions assez importantes. et notre ami Jonas qui a parlé sur la poudre toxique. Et je pense que tous les trois ont pratiquement raison de parler de cela. Et je voudrais rappeler une chose. Beaucoup de villes au monde, un peu historique, hein, beaucoup de villes au monde, et se sont construites en relation directe avec des cours d'eau. C'est pas un hasard. Pendant de nombreux siècles, effectivement, donc le cours d'eau ou les rivières dans une ville ou dans un milieu ou dans un village, et ça accordait, donc ça apportait un de l'eau courante, ça apportait de l'énergie, ça donnait la facilité de déplacement de biens et de personnes d'une zone à l'autre ou de rive donc d'une rive à l'autre. Et ça donnait également, ça facilitait l'évacuation de déchets et ça contribue à protéger les villes contre leurs ennemis. Donc c'était aussi avec un aspect sécuritaire, comme on pouvait le faire soit à côté de montagne, soit alors une rivière pouvait séparer un village ou une ville de l'autre parce que s'il y avait un problème de sécurité. Et ça c'est important parce que si on sait déjà que notre rivière ou nos rivières ont une fonction économique, ont une fonction écologique, ont une fonction sécuritaire et tout ça, ça signifie que quelque part, ça fait partie, pas quelque part, mais de manière obligatoire, ça fait partie du paysage urbain, ça fait partie de ce que nous appelons les écosystèmes urbains. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle plus des villes durables. Il faut intégrer toutes ces notions, la présence des animaux, la présence de plantes, la présence... Et vous verrez bien que dans certaines villes, il n'y a plus d'oiseaux. Dans certaines villes, il n'y a plus certains insectes. Donc la présence d'insectes et d'oiseaux et de plantes et des rivières constitue ce qu'on appelle une ville durable. Alors, pour revenir à la question, si déjà on fait ce petit rappel, nous avons la facilité de pouvoir comprendre ce que notre ami... et Malonga a essayé de nous dire. Il est vrai, ce n'est pas que c'est aujourd'hui que les gens commencent à consommer trop l'eau de rivière. Non, traditionnellement, et d'ailleurs dans l'ensemble de la RDC, et on consomme ça. Et je vais quand même vous surprendre, car jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020, 80% de la population de la RDC qui vit dans la zone où l'état des rivières menace gravement l'accès à l'eau pour des populations humaines. Donc vous avez affaire à un problème général. Et les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est plus des 80% dans notre République. Et dans le village, les gens consomment réellement l'eau des rivières. Mais je dois revenir pour éclairer notre ami. Quand vous observez très bien dans le milieu rural, les gens... quelques exceptions à d'autres, mais les endroits, les milieux, et si vous observez dans ces villages, vous allez vous rendre compte qu'ils puisent de l'eau à la source. Ils savent où se trouve la source d'eau. Et ils savent très bien que lorsqu'ils vont de là où il y a le rocher, ils vont trouver de l'eau potable. Ils ne le prennent pas n'importe où. Donc ils connaissent déjà eux-mêmes. Dans le milieu rural, ils ont cette notion de potabilité, ils savent qu'ils peuvent avoir des maladies liées à cela. Certainement qu'il y a des exceptions, il y a des endroits où on a des rivières, cette fois-ci, les gens, ils prennent de l'eau n'importe où. Ça aussi, ce sont des particularités. Mais on n'encourage pas cela. On n'encourage pas cela.
Professeur, excusez-moi de vous interrompre à ce niveau, c'est pour qu'on n'oublie pas. Vous avez suivi Jonas qui a parlé de cette pratique où on essaie de polluer de l'eau avec de la poudre, tout et tout, pour arriver à attraper les poissons.
Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je vais y arriver. Je commençais d'abord parler avec M. Malonga. Je vais terminer par la poudre toxique de notre ami Jonas.
D'accord, c'est
alors,
bon,
c'est ainsi que je voulais... Ah, ok. Je voulais quand même éclairer en montrant tout simplement, en expliquant que dans le milieu rural, le paysan, ils savent comment avoir de l'eau potable et ils savent aussi les traiter. Je parle de vrais villages.
Oui.
Hein, de vrais villages où les gens, ils savent aussi comment rendre l'eau potable en utilisant du charbon, en utilisant du sable, en utilisant de braise et tout ça. Et ils tamisent. Et d'autres, ils bouillissent. Mais généralement, ils cherchent de l'eau au niveau des rochers, au niveau des sources et de rivières. Alors, mais dans certains villages, on prend de l'eau n'importe où. On n'encourage pas que les gens puissent et tout ça. Il y a un problème de contamination. C'est vrai qu'il a insisté sur un élément, et je suis tout à fait d'accord. Le système, l'éducation environnementale est un élément important. Il faut que les gens comprennent que la rivière n'est pas là, bien que ça, une de ses fonctions écologiques, c'est de pouvoir aussi collecter les déchets, parce que les villes et les villages se retrouvent sous le versant. Hein, on le construit sous le versant. Et donc, il faut, quand il y a des précipitations, les rivières sont là pour collecter l'ensemble des eaux de la ville ou de village, et puis pouvoir le drainer. Mais bien sûr, il faudrait que le matériau, le matière qui sont là-dedans, soit des matériaux biodégradables, pas des 4 tonnes et des tonnes de sachets qui ne sont pas biodégradables, soit pas des matériaux qui sont trop toxiques, ainsi de suite, parce que ça va détruire les écosystèmes aquatiques, ça va détruire également ceux qui vont les consommer, en suivant la chaîne alimentaire, d'autres types d'animaux, ainsi de suite. Alors, il faut qu'on éduque les gens à pouvoir comprendre que nous avons l'obligation de savoir que notre collecteur général naturel, et qui est aussi notre instrument de dépollution naturelle, tout comme le sol, ne peut pas être anéanti par nos activités anthropiques. C'est nous qui les faisons. Donc nous avons la capacité de le faire. Or, si nous passons par l'éducation environnementale, qui est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait la loi. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'on criminalise les actes que nous appelons les crimes environnementaux. Ça doit être criminalisé, comme on le voit dans d'autres pays. Que celui qui fait ceci, c'est lui qui pollue, il paye autant. C'est lui qui coupe un arbre, il a autant d'années de prison, il doit payer ceci. Il faut qu'on criminalise, donc qu'on parle plus de ces crimes environnementaux. Et là, on répond à la question de notre ami qui a précédé Malunga, et qui parle de politique. Donc il faut qu'il y ait de lois, il faut qu'il y ait des textes, et ces lois doivent être de lois claires, et les lois doivent être aussi utilisables et appliquées. Alors si on ne les applique pas, ça ne sert à rien, on peut éduquer les gens à l'environnement, mais si on ne respecte rien, lorsque la population ne respecte rien et qu'il n'y a pas de sanctions, bon, ils vont continuer à le faire. Aujourd'hui, je vois ça. Moi, je regarde dans la ville de Lubumbashi, sur la rivière Lubumbashi, d'ailleurs, la rivière Lubumbashi, c'est les noms de la ville. Normalement, si on était sérieux, on pouvait bien protéger cette rivière parce que c'est un patrimoine et qui a donné le nom à la ville. On pouvait avoir des hôtels de qualité tout au long et la rivière bien drainée et draguée, bien orientée, que les gens ne construisent pas. Malheureusement, la rivière est en train de disparaître. On construit, vous allez vers le golfe, vers le cercle épique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont construit, qui ont fait même des clôtures et tout ça, au vu et au su de tout le monde, de ceux-là qui sont censés donner la loi, de ceux-là qui sont censés l'appliquer, de ceux-là. Donc, c'est quelque part, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, maintenant, on n'imagine pas qu'une fois cette rivière va disparaître, quelles sont les autres conséquences que nous pourrions avoir dans la ville. On s'en fout du reste. Hein? Et tous les lits de la rivière, même la rivière doit être lotie. Parce que les gens jettent de moellons pour essayer de faire disparaître le marécage de moellons et autant de tonnes, et ils construisent, ils prennent d'hectares et d'hectares et d'hectares et autant de superficie. Et c'est étonnant, alors que c'est une rivière qui devait laisser le nom, qui donne le nom. La ville de Lubumbashi vient de la rivière Lubumbashi. Il faudrait que génération à génération vienne se dire, ah tiens, c'est ça alors le cours d'eau. Et c'est ça alors, pourquoi ça sillonne et ça traverse toute la ville? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que la loi n'existe. Parce que si ça existe, ce n'est pas appliqué. Donc nous sommes dans ce que nous appelons les politiques environnementales. Il faut que les politiques environnementales ne soient pas politiques. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas tout simplement faire des choses pour exhiber en disant nous demandons, parce que la rivière Kassai a été polluée, on demande à l'Angola de nous donner de l'argent et tout ça. Donc ça on fait de la politique dans l'environnement, ce qui n'est pas agréable. Il faut faire de la politique environnementale et non la politique de l'environnement.
Voilà, il faudra qu'on avance, professeur Alossi, parce qu'il y a déjà d'autres auditeurs qui sont en ligne, hein, qui faudra accorder la parole. Alors, si vous voulez réagir par rapport à ce qu'avait dit Jonas, cette façon de polluer l'eau pour attraper le poisson, oui.
Merci beaucoup. Alors, ceux qui utilisent cette poudre toxique, ils le font dans beaucoup de milieux ruraux, c'est de la technique de chasse, donc de pêche en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la poudre en question, et ça arrive juste à bloquer l'oxygène pour le poisson, et le fait quand il n'a plus d'oxygène, et le poisson finisse par être comme si c'était un peu enivré, ainsi de suite, mais la poudre elle n'est pas toxique également pour les humains, mais ça peut vous faire de même que de même réaction que pour le poisson. Mais alors, si c'était toxique, plus grave, les gens ne pourraient pas manger ce poisson-là. Parce que le fait que le poisson puisse boire cette eau qui est devenue verte, ils finissent pas. Mais maintenant, par être attrapé et être mangé. Mais les gens qui mangent ne sont pas malades à cause de ça. Donc, techniquement, c'est une technique traditionnelle utilisée dans beaucoup de pays, également dans beaucoup de milieux. Et c'est... Mais maintenant, pendant combien de temps? Là, il y a une question d'élite. Nous ne pouvons pas répondre comme ça, hein. Donc, en tant que scientifique, c'est que nous devons être à mesure de savoir qu'on doit faire des études dans un endroit X où cela se passait. Et ce qui est utilisé pendant combien de temps, cette quantité d'eau, et bon, quels sont les éléments les plus dangereux, et à quel moment les gens peuvent utiliser. Donc, on ne peut pas vraiment donner une réponse beaucoup plus claire, mais généralement, et ça ne dépasse jamais 4 jours. Dans les milieux où j'ai vu, ça ne dépasse jamais 4 jours, et l'eau est devenue déjà très claire. Mais s'il y a encore la pluie, ça, dans 2 jours, tout est parti.
Professeur, on vous garde encore en ligne. Nous avons Madame Claudia qui nous appelle de Kolwezi et Kapambu qui est à Chikapa. Madame Claudia, vous nous appelez de Kolwezi. Bonjour Madame Claudia.
Bonjour au Capi Service.
On vous écoute Madame.
Professeur, Monsieur Marcel, ça fait déjà plusieurs années que nous connaissons cette situation. Et nous avons le service de l'hygiène, le service de l'environnement, le ministère de l'environnement. Jusqu'à quand vont-ils rester indifférents face à cette situation? Pour ce qui est des personnes qui viennent des fonds dans les rivières, les cours d'eau, c'est un peu difficile de les sanctionner parce qu'ils les font souvent la nuit. Mais les gens qui ont construit des fosses septiques en analysant tout droit dans les rivières, c'est facile de les sanctionner. C'est un peu ça. Merci.
D'accord. Merci, Madame Claudia. Vous insistez, sur la sanction. Le professeur en a également parlé, beaucoup d'autres intervenants. Merci d'avoir appelé depuis à Kolwezi et bonne journée à vous, Madame Claudia Kolwezi. Kapambu, vous êtes à Chikapa. Bonjour, Kapambu.
Bonjour, Monsieur Marcel. Ce n'est pas Kapambu, c'est Kapambu Franck.
D'accord. Allez-y. On vous écoute.
Oui. Je voulais juste poser la question à notre invité. S'il peut seulement nous expliquer. Voilà que nous sommes à Chikapa, la rivière Kansai et la rivière Chikapa ont été polluées récemment, mais on avait vu certains membres du gouvernement descendre sur le terrain pour mener les enquêtes pour s'enquérir de la situation. Mais ce que je me demande, la rivière Chikapa a été polluée depuis l'Angola. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a prévu? Quelles sont les sanctions qui sont prescrites pour que la nation angolaise subisse ces sanctions-là? Je voulais juste me renseigner sur ça. Merci beaucoup.
Voilà, merci d'avoir appelé les Chikapa, professeur Jean-Pierre Djibou. Comment réagissez-vous d'abord à Madame Claudia qui pense que c'est pas toujours facile de repérer les personnes qui les font. Des fois, ces personnes les font la nuit, mais elle insiste tout de même qu'il faut absolument qu'il y ait sanctions pour éviter que les gens puissent vraiment continuer à faire ces genres de pratiques où il faut jeter les immondices dans les cours d'eau, et même parfois même tout ce qui est comme matière fécale que ces personnes orientent depuis leur maison vers le cours d'eau. Et puis c'est cette préoccupation aussi de l'auditeur de Chikapa pour ce qui est de la pollution lorsque par exemple une rivière est polluée, qu'est-ce qui doit être normalement fait, professeur Jean-Pierre Djibou?
Merci beaucoup. Je pense que Madame Claudia a totalement raison. Hein, il faut sanctionner. Mais il faut sanctionner. Et ce qu'il faut savoir aussi, que nos villes ne sont pas urbanisées. Parce que c'est aussi un autre problème. Et lorsqu'on construit une ville, on doit urbaniser, on doit aménager, on doit respecter les normes. Urbaniser une ville, ça signifie qu'il doit y avoir des services de collecte de déchets. Ça signifie qu'il faut avoir la police hygiénique. Ça signifie que vous devez avoir un contrôle les systèmes d'irrigation, des drainages, ainsi de suite. Mais malheureusement, dans nos villes grandes comme petites, et ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Et si ça existe, c'est peut-être pour faire plaire un peu... Hein, bon, ça devient des slogans politiques. En réalité, ça ne dit absolument rien. Ça doit être un système. Nos mairies, nos provinces, et tant que les villes ne sont pas urbanisées, c'est tout à fait normal que vous ayez des catégories de personnes qui construisent le long de rivières et dans le lit, et qui aussi d'autres incivils qui soient peut-être de systèmes de cadastres ou ainsi de suite, qui font des lotissements. Et voilà, donc les gens vont construire et ils vont trouver que, au lieu de faire de puits perdus, pour eux, de puits perdus, de toilettes, ce sont des cours d'eau. Alors maintenant, parce que ça existe et nous sommes des gens devant de fait accompli, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que chaque ville doit faire? C'est ça le rôle, disons, parce que chaque ville a ce qu'on appelle un système, une coordination de l'environnement. Mais qu'est-ce que ces gens doivent faire? Qu'est-ce qu'ils font? Hein, au lieu de passer, demander à des gens que voilà, vous avez jeté quelque chose là, vous n'avez pas payé, vous avez construit un kiosque, vous n'avez pas payé. L'environnement, c'est pas la construction des kiosques. Alors, il faut qu'on arrive à comprendre aussi des fonctions et ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant que les services de mairie ne les feront pas, les gens vont continuer. Et en plus, il faut savoir que nos villes sont devenues des villes très hétérogènes, c'est-à-dire... Regardez, cela est possible même dans l'Afrique, en Afrique du Sud, et même aussi donc Johannesburg ou bien en Europe, hein, vous verrez la même chose de grandes villes. Vous allez voir qu'il y a des zones qui sont suffisamment bien urbanisées où les gens sont bien civilisés. Il y a des zones où les gens ne sont pas civilisés lorsqu'ils n'ont pas assez de moyens, lorsqu'ils sont venus comme ça. Et voilà, ils se retrouvent dans un endroit X, par exemple, ils arrivent en Europe, et alors ils vont constituer leur cercle où ils peuvent se retrouver tellement en famille entre eux. Et tous ces coins-là sont des coins qui sont très sales. Et vous verrez bien, vous avez vu même en Afrique du Sud, quand les Blancs quittaient l'Afrique du Sud, Johannesburg, ils l'ont laissé au noir. Vous avez vu comment cette ville, et une partie de cette ville, comment elle est, tout est abîmé. Mais c'est aussi culturel, c'est ce que j'ai dit, culturellement, est-ce que nous avons... Nous devons apprendre à savoir que la nature cohabite avec nous et nous ne pouvons pas tout jeter dans la nature. Et ça doit être traité. Et pour être traité, il faut avoir des usines, il faut avoir des mairies, il faut avoir des gouvernements provinciaux qui arrivent à avoir des usines de traitement, qui arrivent à avoir des villes urbanisées, mais pas des villes qui naissent de manière spontanée avec des maisons qui, anarchiques. Et dans des conditions, vous arrivez à des endroits où il n'y a même pas d'avenue, mais dans une ville, parce que l'avenue est bloquée par une maison. Tout ça, ce sont des paramètres. Et ça nous renvoie au premier intervenant, notre ami qui nous a posé la question. Ça entre dans cette notion des politiques environnementales. Il faut que la loi suive. On peut tout dire, on peut faire des expériences, il faut que la loi suive.
Pour ça, vous avez beaucoup...
Alors, il y a notre ami de Tikapa.
Oui.
Et notre ami de Tikapa qui pose la question. C'est vrai, politiquement, qu'est-ce que vous voulez et vous avez une rivière polluée, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, moi j'ai entendu plusieurs choses, on a envoyé des gens, on a voulu qu'il y ait de l'argent éventuellement à que l'Angola paye, et ainsi de suite, mais on ne peut pas se focaliser sur l'argent, on a la possibilité nous-mêmes de le faire. Alors il faut apprendre, et pour le faire, il faut étudier quels sont les éléments qui ont pollué cette rivière-là. Mais en travaillant en négociation, certainement, parce qu'il s'agit des relations bilatérales, bon, peut-être des relations de voisinage, comment collaborer avec ce pays pour arriver à faire le nettoyage. Une rivière, on peut la nettoyer. À ce moment-là, on peut la nettoyer, on peut la dépolluer, en tenant compte, déjà tout en sachant qu'elle-même, elle est en train de faire ce travail de manière naturelle. Et savoir quels sont les éléments toxiques, parce que si c'est simplement la couleur, parce que tout est rouge, tant mieux. Mais ça peut être un produit X, mais en réalité, ce produit n'est pas très dangereux. Hein? Donc, il faudrait qu'on arrive à nettoyer, qu'on arrive à le faire. Et là, c'est un problème entre le technicien de part et d'autre, que ce soit de la RDC et de l'Angola, parce que la pollution venant de l'Angola est cherchée comment le faire. Et ça peut prendre un temps, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça tout dépendra de la qualité et de la quantité. De polluants.
Professeur, on va prendre le tout dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa et puis on va conclure avec vous. Paulin, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour Paulin.
Oui, bonjour monsieur l'invité, bonjour à l'invité.
Paulin, en une minute, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet, sur la pollution des cours d'eau des zones urbaines de la RDC et quelles sont les conséquences en une minute?
Oui, dans une minute, je peux conclure que la RDC n'a pas la politique de gestion de l'environnement et des rivières. Deuxièmement, je peux dire au professeur qu'en sachant qu'une personne qui était en amont avertie sur les conséquences, la population congolaise n'est pas avertie sur les gestions de conditions de l'environnement. Entre autres, les premières des choses, la première des choses est d'abord de sensibiliser la population qu'on laisse quoi faire pour ne pas tomber dans les déchets, dans les problèmes des procédures de l'environnement. Deuxièmement, l'État congolais doit interdire les entreprises brassicoles, aux entreprises des industries pour ne pas faire que leurs usines puissent construire ou puissent être au long des cours d'eau des rivières en RDC pour se servir comme comme quand ils pour tomber au niveau des fleuves, en vue d'éviter tout ce que nous voyons comme macabre aujourd'hui au niveau des pollutions, des routes, ici les fleuves, tout en sorte.
Merci Paulin d'avoir appelé de Kinshasa. Professeur, on va conclure avec vous. Donc on retient qu'il faut une véritable politique environnementale et également très important du civisme écologique. Professeur Jean-Pierre?
Oui, allô?
Ouais, je disais donc que c'est vraiment, on doit avoir pour en tout cas arriver à protéger les cours d'eau dans les zones urbaines de la RDC. Il faut une véritable politique environnementale et vous avez également insisté, il faut du civisme écologique.
Exact, exact. Il faut vraiment un civisme écologique. Un civisme écologique prend l'ensemble de tout le problème environnemental. Et que ce soit au niveau du changement climatique, que ce soit au niveau des reforestations, des boisements, des pollutions, ainsi de suite. Mais il faudrait que ces civismes écologiques qu'on introduise, hein, c'est ce que j'ai vu déjà quand on fait dans de qu'on introduise tous ces cours d'environnement depuis l'école primaire, et maternelle, ainsi de suite, jusqu'à l'université, et que ça soit du coup le plus important. Et parce que si, sur le plan éducationnel, on n'arrive pas à montrer aux gens l'importance de l'environnement dans leur vie, ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert absolument à rien. L'éducation à l'environnement, les civismes écologiques est un atout. Deuxièmement, il faudrait que les politiques environnementales qui sont là puissent être appliquées et les avoir de manière draconienne, c'est-à-dire les appliquer avec beaucoup de sévérité. Parce qu'on a l'impression qu'on fait de l'environnement, de la politique, il suffit qu'on s'exhibe, tel a planté autant d'arbres, tel a fait ceci, tel a fait ceci, au lieu que l'environnement, qu'on fasse des politiques environnementales, on fait de l'environnement politique. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. Et c'est ce qui fait que, dans notre pays, les choses ne marchent pas. Parce qu'on veut, et on est en extérieur, plus extérieur qu'intérieur.
Voilà, professeur, on va s'arrêter par là. Nous rappelons que c'était bien le professeur Jean-Pierre Ndjibou qui était notre invité pour parler de la position des cours d'eau des zones urbaines de la RDC. Quelles sont les conséquences? Vous êtes chercheur sur les questions de l'environnement et risques naturels. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Soki na pesi yanga ndemo kongo, bakomi komemanga na nzela li.